BGG remit les bocaux dans la valise. C'est tout? On s'en va?
Oh, je suis tellement bouleversé par ce bouffrayeur crapahuteux et troglopompiste que je n'ai plus envie de continuer. La chasse au rêve est terminée pour aujourd'hui.
Bientôt, Sophie retrouva sa place dans la poche du gilet et le BGG parcourut le chemin du retour aussi vite que possible. Lorsqu'enfin, ils émergèrent de la brume et retrouvèrent la terre jaunâtre, torride et désolée du pays des géants, tous les autres géants étaient vautrés sur le sol, profondément endormis. Lorsque le BGG se fut rapproché des géants endormis, il ralentit le pas et se déplaça sans bruit, marchant sur la pointe des pieds en direction des brutes hideuses qui continuaient de ronfler bruyamment. Il paraissait vraiment repoussant, diabolique. Le BGG les contourna, marchant toujours sur la pointe des pieds. Il passa à côté du gobeur de gésier, du buveur de sang, de l'empiffreur de viande, du mâcheur d'enfants et s'arrêta enfin lorsqu'il se trouva devant l'avaleur de chair fraîche. Il le montra du doigt, puis se pencha vers Sophie en lui adressant un clin d'œil appuyé. Il s'agenouilla ensuite sur le sol et ouvrit précautionneusement la valise, d'où il retira le bocal dans lequel le terrible et cauchemardesque troglopompe était enfermé. Sophie devina alors ce qui allait se passer. « Ouh là là! Voilà qui pourrait bien devenir dangereux !» Elle s'accroupit aussitôt dans sa poche en ne montrant que le haut de sa tête et ses yeux. Il fallait se tenir prête à se baisser et disparaître si jamais les choses tournaient mal. Il n'était plus maintenant qu'à 3 mètres du visage de l'avaleur de chair fraîche. Le ronflement qu'il produisait en dormant était parfaitement indécent. De temps à autre, une grosse bulle de salive se formait entre ses 2 lèvres ouvertes, puis éclatait en lui couvrant le visage de bave. Avec d'infinies précautions, le BGG dévissa le couvercle du bocal et laissa tomber dans le pavillon de sa trompette le troglopompe écarlate qui se tortillait et se trémoussait. Ensuite, le BGG emboucha sa trompette et dirigea l'instrument droit vers le visage de l'avaleur de chair fraîche. Il prit une profonde inspiration, gonfla les joues, puis il souffla. Sophie vit un éclair rouge pâle filer vers le visage de l'avaleur de chair fraîche. Pendant une fraction de seconde, l'éclair voltigea au-dessus de sa tête, puis il disparut. On aurait dit qu'il avait été happé par le nez du géant, mais tout s'était passé si vite que Sophie ne savait pas vraiment.
À présent, on ferait mieux de s'éplixer et de se mettre à l'abri.
Il parcourut 100 mètres en petite foulée, puis il s'arrêta et s'accroupit dans l'herbe.
Et maintenant, attendons le feu d'artifice.
Ils n'eurent pas très longtemps à attendre. Bientôt, le plus épouvantable rugissement que Sophie eut jamais entendu déchira l'air. Et elle vit le corps de l'avaleur de chair fraîche, de toute la longueur de ses 15 mètres, bondir du sol et retomber avec un bruit sourd. Puis le géant se mit à gigoter, à se tortiller, à se convulser de la manière la plus violente. C'était un spectacle effrayant. Rugit l'avaleur de chair fraîche.
Il est toujours endormi. C'est le terrible cauchemar troglopompeux qui commence à agir.
Bien fait pour lui. Elle n'éprouvait pas la moindre compassion pour cette grande brute qui dévorait des enfants comme s'il se fût agi de simples morceaux de sucre.
Sauvez-moi !
Hurla l'avaleur de chair fraîche en se débattant comme un diable.
Il me poursuit ! Il m'attrape !
Au même moment, il agita les bras et les jambes plus violemment encore. C'était terrifiant de voir cette énorme créature secouée d'aussi furieuses convulsions.
C'est Jack ! C'est Jack ! C'est l'épouvanteux, l'abominable Jack ! Jack m'a eu ! Oh, Jack me rit ! Oh, Jack me flamme ! Jack me pique ! Oh, Jack me lard ! Jack m'écrabouille ! Oh, c'est le terrifiant, Jack !
L'avaleur de chair fraîche se tortillait sur le sol tel un monstrueux serpent qu'on aurait soumis à la torture.
Oh, épargne-moi, Jack ! Ne me fais pas de mal !
Qui Qui est donc ce Jacques ?
Jacques est le seul homme de terre que les géants redoutent. Ils sont tous terrifiés par Jacques. Ils ont tous entendu dire que Jacques est un célèbre tueur de géants.
L'effroyable cauchemar s'était tellement bien emparé du géant à présent que celui-ci avait le corps complètement noué à force de se tortiller en tous sens.
Non ! Ne fais pas ça, Jacques ! Je ne voulais pas te manger, Jacques ! Je ne mange jamais d'hommes de terre ! Je jure que j'ai jamais avalé le moindre petit homme de terre de ma vie !
Menteur, hein ?
Chuchota le BGG. À ce même moment, l'un des bras de la valeur de chair fraîche, battant l'air de tous côtés, vint frapper la bouche de l'empiffreur de viande qui était toujours profondément endormi. En même temps, l'une de ses jambes, agitée de mouvements violents, se tendit et son pied heurta brutalement le ventre du gobeur de gésier qui ronflait à proximité. Les deux géants meurtris se réveillèrent aussitôt et bondirent sur leurs pieds.
« Il m'a frappé en plein sur la bouche !»
s'exclama l'empiffreur de viande.
« Et moi, il m'a écrabouillé la bedaine !»
s'écria le gobeur de gésier. Tous deux se précipitèrent alors sur l'avaleur de chair fraîche et se mirent à le marteler de coups de pied et de coups de poing. L'infortuné géant s'éveilla en sursaut pour tomber d'un cauchemar dans l'autre. Il se lança aussitôt dans la bagarre avec un rugissement furieux et au cours de la mêlée bruyante et trépignante qui s'ensuivit, tous les autres géants endormis, l'un après l'autre, se firent marcher dessus ou reçurent des coups de pied. Bientôt, ils furent debout, tous les neuf, et se livrèrent à une bataille rangée. Ils échangeaient coups de pied, coups de poing, coups de tête et se griffaient ou se mordaient avec la plus grande violence. Le sang coulait à flots, les nez craquaient, les dents tombaient. On entendait des rugissements, des cris, des jurons et le tumulte de la bagarre retentit d'un bout à l'autre de la plaine au teint jaunâtre pendant un bon moment. Le BGG eut un grand et large sourire qui exprimait toute l'étendue de sa satisfaction.
Oh, j'adore ça, quand ils s'échangent des maraignes et des chatons.
Ils vont s'entretuer ?
Sûrement pas. Ces brutes sont toujours à se cogner et à s'assommer, mais bientôt, la nuit va tomber et ils s'en iront galoper ailleurs pour se remplir la panse.
Ils sont ignobles, grossiers et répugnants. Je les hais.
Nous avons fait bon usage de ce cauchemar, tu trouves pas ?
Un excellent usage. Vous avez bien fait. Le bon gros géant était installé à sa table dans la caverne et s'était mis à sa besogne. Sophie, assise en tailleur sur le plateau de la table juste à côté de lui, le regardait travailler. Le seul beau rêve qu'ils avaient attrapé ce jour-là était enfermé dans son bocal posé un peu plus loin. Avec beaucoup de soin et de patience, le BGG, muni d'un énorme crayon, était en train d'écrire quelque chose en lettres d'imprimerie sur un morceau de papier. Qu'est-ce que vous écrivez ?
Chaque rêve a sa propre étiquette collée sur son bocal. Sinon, comment pourrais-je le retrouver si je suis pressé ?
Ayant ainsi parlé, le BGG se détourna de Sophie d'un air dédaigneux et se remit à écrire. Sophie s'avança pour pouvoir lire ce qu'il avait déjà écrit. Les lettres étaient grandes et grasses, mais pas très bien formées. Voici ce que Sophie lut. Ce rêve raconte comment je sauve mon professeur de la noyade. Je plonge dans la rivière depuis un pont très haut et je ramène mon professeur sur la rive, puis je lui fais du mouche à mouche. Du quoi ? Le BGG cessa d'écrire et releva lentement la tête. Ses yeux se fixèrent sur le visage de la fillette.
Je t'ai déjà dit que je n'ai jamais été à l'école. Je suis plein de fautes, mais j'y peux rien, je fais de mon mieux. Toi-même, tu es une charmante petite fille, mais rappelle-toi que tu n'es pas vraiment mademoiselle qui sait tout.
Je suis désolée, vraiment désolée. C'est très mal élevé de ma part de vous corriger sans cesse. Le BGG la contempla pendant encore un moment, puis il baissa à nouveau la tête et reprit sa tâche laborieuse. Dites-moi, honnêtement, si vous souffliez ce rêve dans ma chambre pendant que je dors, est-ce que je rêverais bel et bien que je sauve mon professeur de la noyade en plongeant du haut d'un pont ?
Plus que ça, bien plus que ça. Mais je ne peux pas grafouiller tout ce qui se passe dans ce rêve sur un minuscule bout de papier. Il se passe bien d'autres choses, bien entendu.
Le BGG posa son crayon sur la table et colla l'une de ses immenses oreilles contre la paroi de verre du bocal. Puis, il écouta attentivement pendant environ 30 secondes.
Ce rêve a une très belle suite. Et il a une fin fantabuleuse.
Comment finit-il? Oh, s'il vous plaît, dites-moi.
Avec ce rêve-là, tu rêverais que le lendemain du jour où tu as sauvé ton professeur de la noyade, tu arrives à l'école et que tu vois les 500 autres élèves de l'école tous réunis, ainsi que tous les professeurs. Il y a le directeur de l'école qui est là et qui dit « Je voudrais que toute l'école acclame Sophie qui a eu le courage de sauver la vie de notre excellent professeur d'arithmétique, Mr. Fidgin, qui a été malencontreusement poussé du haut du pont par notre professeur de gymnastique, Mademoiselle Amelia Hubscotch. Pour Sophie et Pépé, ouah !» Alors, toute l'école en délire t'acclamerait aussitôt en criant « Bravo !» Et après cela, Mr. Fidgin te donnerait toujours 10 sur 10 en écrivant « Très bien, Sophie, dans ton livre d'exercice, même si tes additions étaient complètement embrouillaminées. Et c'est à ce moment-là que tu te réveillerais. »
J'aime bien ce rêve.
Bien sûr que tu l'aimes. C'est une excellente bouille de gnome.
Il lécha le dos de l'étiquette et la colla sur le bocal. Le BGG se leva, se dirigea vers l'une des nombreuses étagères et y plaça le bocal parmi les milliers d'autres. « Est-ce que je pourrais voir d'autres rêves ?» Le BGG hésita.
Personne ne les a jamais vus, mais après tout, je vais peut-être bien te laisser y jeter un petit coup d'œil.
Le BGG, faisant montre d'une patience à toute épreuve, la porta vers les bocaux qu'elle désignait du doigt. Sophie lut rapidement quelques étiquettes. Je grimpe au sommet du mont Everest avec rien que mon chat comme compagnie. J'invente une voiture qui marche au dentifrice. Je suis capable de faire allumer ou éteindre les lampes électriques rien que par la pensée. Je suis un petit garçon de 8 ans, mais j'ai déjà une belle barbe touffue et tous les autres garçons sont jaloux. Je suis capable de sauter de n'importe quelle fenêtre, même si elle est très haute, et de voler jusqu'en bas sans me faire mal. J'ai une copine abeille qui joue du rock'n'roll quand elle vole. Ce qui m'étonne, dit Sophie, c'est comment vous avez pu faire pour apprendre à écrire?
Oh ça, je me demandais bien dans combien de temps tu me poserais cette question.
C'est tout à fait merveilleux d'y être parvenu sans aller à l'école. Comment donc avez-vous fait? Le BGG traversa la caverne et ouvrit une petite porte secrète aménagée dans le mur. Il en retira un vieux livre tout abîmé. Aux yeux d'un humain, c'était un livre normal. Mais dans la main énorme du géant, il avait l'air d'un timbre-poste.
Une nuit, j'étais en train de souffler un rêve par une fenêtre et tout d'un coup, j'aperçois ce livre posé sur la table de chevet à côté du lit d'un petit garçon. J'en avais vraiment très envie, crois-moi. Mais je n'ai pas voulu le voler. Je ne ferai jamais une chose pareille.
Et comment avez-vous fait pour l'avoir?
Je l'ai emprunté. Je l'ai momentanément emprunté.
Depuis combien de temps?
Oh, 80 ans environ, pas plus. Et je le remettrai bientôt là où je l'ai pris.
Et c'est comme ça que vous avez appris à écrire?
Je l'ai lu et relu des centaines de fois. Et je le relis encore en apprenant chaque fois de nouveaux mots que je m'exerce à écrire. C'est une histoire d'exquise savouricieuse.
Sophie prit le livre dans la main du géant. Nicolas Nickleby?
Par Darl Schickens.
Par qui? Au même instant, un bruit terrifiant retentit à l'extérieur de la caverne. Un bruit de trépignement. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, ce sont les géants qui se carapatatent dans d'autres pays pour aller s'y empiffrer d'hommes de terre.
Puis, il fourra aussitôt Sophie dans la poche de son gilet, se hâta vers l'entrée de la caverne et roula de côté l'énorme pierre. Sophie colla son œil au petit trou de la poche et aperçut les 9 redoutables géants qui galopaient à toute allure.
Où est-ce que vous allez ce soir? On s'escampette en Angleterre!
Répondit la valeur de chair fraîche tandis que toute la troupe passait devant l'entrée de la caverne.
L'Angleterre est un pays délicieux et on a très envie de petits barbeaux anglais! Moi!
S'écria l'écrabouilleur de donzelles.
Je connais une boîte à sottes remplie de petites filles et je vais m'en avaler plein la bonbonne! Et moi!
S'exclama le gobeur de gésier.
Je connais une boîte à ballons plein de petits garçons. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de tendre la main et de m'en ramasser une poignée. Les petits garçons anglais sont si savoureux.
Quelques secondes plus tard, les 9 géants au galop étaient déjà hors de vue. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Demanda Sophie en sortant la tête de la poche. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte à sottes?
Ils voulaient dire une école de filles. Il va en dévorer par paquets entiers.
Oh non!
Et ils mangeront aussi des petits garçons dans une autre école.
Il faut empêcher ça. Il faut à tout prix les arrêter. Nous n'allons tout de même pas rester assis là à ne rien faire.
Il n'y a rien à faire. Nous ne serions pas plus utiles qu'une plume de cheval.
Il s'assit sur un roc escarpé aux teintes bleuâtres, près de l'entrée de la caverne, prit Sophie dans sa poche et la posa à côté de lui, sur la roche.
À présent, tu peux rester dehors en toute sécurité jusqu'à ce qu'ils reviennent.
Le soleil avait disparu sous l'horizon et le soir tombait.
Il faut absolument que nous les arrêtions, insista Sophie. Remettez-moi vite dans votre poche, nous allons les suivre et prévenir tout le monde en Angleterre qu'ils arrivent.
Redoncule et impossible. Ils vont deux fois plus vite que moi et ils auront fini leur repas avant que j'aie fait la moitié du chemin.
Mais on ne peut tout de même pas rester assis à ne rien faire. Combien de filles et de garçons vont-ils dévorer cette nuit?
Beaucoup. La valeur de chair fraîche à lui tout seul a un appétit dévorastateur.
Et ils vont enlever les enfants de leur lit pendant leur sommeil?
Comme des petits pois dans leur cosse.
Oh, je ne peux pas supporter cette idée.
Alors n'y pense pas. Pendant des années, je me suis assis sur ce roc chaque soir, au moment où il décampe. Et chaque soir, je me sentais tout triste en pensant aux hommes de terre qu'ils allaient avaler. Mais il a bien fallu que je m'y habitue. On ne peut rien y faire. Si j'étais pas un minuscule petit avorton de géant de 7 mètres, alors je pourrais les arrêter. C'est absolument hors de gestion.
Au bout d'un moment, Sophie se leva et s'écria : « Je ne peux pas le supporter !» Pensez un peu à ces pauvres petits garçons et filles qui vont être dévorés vivants dans quelques heures. Et nous, nous ne pouvons rien faire d'autre que de rester assis là. Il faut absolument poursuivre ces brutes.
Non.
Il le faut. Pourquoi n'y allez-vous pas?
Le BGG soupira et hocha la tête en signe de dénégation.
Je te l'ai déjà dit 5 ou 6 fois et la 3e sera la dernière. Je ne me montrerai jamais aux hommes de terre.
Et pourquoi jamais?
Parce que sinon ils me mettraient dans un zoo avec les gros rilles. Et les chiens pansés.
Absurde.
Et toi, ils te renverraient aussitôt dans un orphelinat. Les hommes de terre ne sont pas réputés pour leur gentillesse. Ce sont tous des pourris de Sansonnet et des tords-la-loi.
Ce n'est pas vrai du tout. Certains d'entre eux sont très gentils.
Qui? Donne-moi un nom.
La reine d'Angleterre, par exemple. On ne peut certainement pas la traiter de pourris de Sansonnet ni de tords-la-loi.
Oui.
On ne peut pas non plus la traiter de rien du tout ou de pas grand-chose.
Il y a longtemps que la valeur de chair fraîche a envie de la manger.
Qui? La reine? Sophie resta silencieuse quelques instants. Puis soudain, d'une voix surexcitée, elle s'écria. Ça y est! Je l'ai! Mince alors! Je crois que je l'ai!
Que tu as quoi?
L'idée! La bonne idée! Une idée magnifique! Nous allons aller voir la reine! Si j'arrivais à lui parler de ces épouvantables géants mangeurs d'hommes, je suis sûre qu'elle ferait quelque chose.
Le BGG posa sur elle un regard triste et hocha la tête.
Elle ne te croira jamais. J'avais de l'ami.
Je crois que si.
Je t'ai déjà expliqué que les hommes de terre ne croient simplement pas aux géants.
Dans ce cas, il faut trouver un moyen pour qu'elle y croie.
Et de toute façon, comment feras-tu pour voir la reine, hein?
Attendez une seconde. Juste une seconde. Je crois bien que j'ai une autre idée.
Tes idées sont complètement faribolesques.
Pas celle-ci. Vous dites que si on raconte cette histoire à la reine, elle ne nous croira jamais?
Certainement pas.
Eh bien, justement, on ne va pas la lui raconter. Nous n'en aurons pas besoin. Nous la lui ferons rêver.
C'est encore plus extra-ballot comme idée. Les rêves sont très bien pour s'amuser, mais personne n'y croit. On ne croit à un rêve qu'au moment où on le fait vraiment, mais dès qu'on se réveille, on se dit « Dieu merci, ce n'était qu'un rêve !»
Ne vous inquiétez pas, je peux arranger ça.
Tu ne pourras rien arranger du tout.
Si, je le peux. Je vous promets que je le peux.
Mais tout d'abord, laissez-moi vous poser une question très importante. Est-il possible de faire rêver à quelqu'un tout ce qu'on veut?
Absolument. Tout ce que tu voudras, je peux le faire rêver.
Si par exemple, je voulais rêver que je suis dans une baignoire volante avec des ailes d'argent, vous pourriez me faire rêver ça?
Je le pourrais.
Mais comment feriez-vous? Vous n'avez certainement pas ce rêve-là, exactement tel que je le souhaiterais dans votre collection.
Non, mais je pourrais l'obtenir en faisant un mélange.
Comment ça, un mélange?
C'est un peu comme un mélange pour un gâteau. Si tu mélanges les ingrédients qu'il faut, en respectant bien les quantités, tu peux faire le gâteau que tu veux. Sucré, glacé, framboisé, bûche de Noëlée ou gros baba au romé. C'est la même chose pour les rêves.
Continuez.
J'ai des 1 000 000 000 de rêves sur mes étagères. Pas vrai?
Vrai.
J'ai plein de rêves avec des baignoires. J'ai des rêves avec des ailes d'argent et des rêves où on vole. Il me suffit donc de mélanger correctement tous ces rêves et j'obtiendrai très vite le rêve où tu voleras dans la baignoire avec des ailes d'argent.
Je comprends. Je ne savais pas qu'on pouvait mélanger les rêves.
Les rêves aiment être mélangés. Ils se sentent tout seuls dans ces bocaux vides.
Parfait. Et maintenant, est-ce que vous avez des rêves avec la reine d'Angleterre?
Plein.
Et avec des géants?
Bien sûr.
Et avec des géants qui mangent les gens?
J'en ai des ribambilles.
Et avec des petites filles comme moi?
Ce sont les plus répandus. J'ai plein de bocaux remplis de rêves avec les petites filles.
Et vous pourriez mélanger tout ça exactement comme je vous le demanderais?
Bien sûr. Mais en quoi ça nous aidera-t-il? Je crois bien que tu fais fausse route.
Attendez un peu. Écoutez-moi bien. Je veux que vous me fassiez un rêve que vous soufflerez dans la chambre de la reine d'Angleterre pendant qu'elle dormira. Et voici ce qui va se passer.
Hé, hey, Minette, papillon! Comment vais-je faire pour m'approcher de la reine d'Angleterre d'assez près pour pouvoir souffler un rêve dans sa chambre? Tu dis des sauteries.
Je vous expliquerai cela plus tard. Pour le moment, s'il vous plaît, écoutez-moi bien attentivement. Voici le rêve dont j'ai besoin. Vous m'écoutez bien.
Je suis toutes oreilles.
Je veux que la reine rêve que 9 épouvantables géants de 15 mètres chacun galopent en Angleterre en pleine nuit. Il faut aussi qu'elle rêve de leur nom. C'est comment, leur nom déjà?
Avaleur de chair fraîche, étouffe chrétien, croqueur d'os, mâcheur d'enfants, empiffreur de viande, gobeur de gésier, égrabouilleur de donzelles, buveur de sang et garçon bouché.
Faites-lui rêver de tous ces noms. Et faites-lui rêver aussi qu'il rôde en Angleterre à l'heure des ombres pour attraper des petits garçons et des petites filles dans leur lit. Faites-la rêver qu'il passe le bras par la fenêtre des chambres à coucher et qu'ils arrachent les petits garçons et les petites filles de leur lit, et ensuite... Sophie marqua une pause, puis elle demanda « Est-ce qu'il les dévore sur place ou est-ce qu'il les emporte ?»
Généralement, ils se les mettent sur la langue et les avalent comme du pop-corn.
Il faudra aussi mettre ça dans le rêve. Et ensuite, le rêve doit montrer que, quand ils ont le ventre plein, ils retournent chez eux au grand galop, au pays des géants, où personne ne peut les retrouver.
C'est tout ?
Certainement pas. Il faut également expliquer à la reine, dans son rêve, qu'il existe un bon gros géant qui peut lui dire où vivent ces sauvages pour qu'elle puisse y envoyer ses soldats et son armée et qu'il les capture une bonne fois pour toutes. Et maintenant, il reste une dernière chose très importante à lui faire rêver. Il faut lui montrer une petite fille assise sur le rebord de sa fenêtre et qui lui dira où se cache le bon gros géant.
Et où se cache-t-il?
Nous y penserons plus tard. Bon, alors, la reine rêve ce rêve-là, d'accord?
D'accord.
Ensuite, elle se réveille. Et la première chose qu'elle se dit, c'est « Oh, quel horrible rêve! Je suis si heureuse que ce ne soit qu'un cauchemar !» Et là-dessus, elle lève la tête de sur son oreiller. Et qu'est-ce qu'elle voit?
Qu'est-ce qu'elle voit?
Elle voit une petite fille nommée Sophie, assise sur le rebord de sa fenêtre, juste devant elle, bien vivante, bien réelle.
Et puis-je te demander comment tu vas faire pour t'asseoir sur le rebord de la fenêtre de la reine d'Angleterre, s'il te plaît?
C'est vous qui me mettrez là.
Bon.
Et c'est ça le meilleur de mon idée. Si quelqu'un rêve qu'il y a une petite fille assise sur le rebord de la fenêtre et que cette personne se réveille en voyant réellement la petite fille assise là, le rêve devient vrai, non?
Je commence à voir où tu veux en venir. Si la reine se rend compte que cette partie de son rêve est vraie, alors elle croira peut-être que tout le reste est également vrai.
C'est à peu près ça. Ah. Mais ce sera à moi de l'en convaincre.
Et tu veux que dans le rêve, on dise qu'il y a un bon gros géant qui va aussi parler à la reine?
Absolument. Ah. Il le faut. Vous êtes le seul qui puisse lui indiquer où se trouvent les autres géants.
Et comment vais-je faire pour rencontrer la reine? Je n'ai pas envie que ces soldats me tirent dessus.
Les soldats sont devant le palais. Et à l'arrière, il y a un grand jardin sans soldats du tout. Le jardin est entouré d'un très haut mur avec des pointes au sommet pour empêcher les gens d'y monter. Mais vous, il vous suffira de l'enjamber.
Comment se fait-il que tu saches tout cela sur le palais de la reine?
L'année dernière, j'étais dans un autre orphelinat. C'était à Londres. Et nous nous promenions souvent dans ce coin-là.
Tu m'aideras à trouver le palais. Moi, j'ai jamais osé me cacher ou rôder autour de Londres.
Je vous montrerai le chemin.
Oh, Londres, ça me fait peur.
Il faut pas. Il y a plein de petites rues sombres un peu partout. Et à l'heure des ombres, on n'y rencontre pas grand monde. Le BGG prit Sophie entre le pouce et l'index et la posa doucement dans la paume de sa main.
Est-ce que le palais est très grand ?
Immense !
Alors comment ferons-nous pour trouver la chambre de la reine ?
Ce sera à vous de jouer. Vous êtes un expert dans ce genre de choses, n'est-ce pas ?
Et tu es vraiment sûr que la reine ne va pas me mettre dans un zoo avec tous les chiens pansés ?
Bien sûr que non. Au contraire, vous serez un héros et vous n'aurez plus jamais besoin de manger de chenocombre. Sophie vit les yeux du BGG s'arrondir. Il se passa la langue sur les lèvres.
C'est vrai ? C'est vraiment vrai ? Plus jamais de ce dégoûtable chenocombre ?
Vous ne pourriez même pas en avoir, même si vous le vouliez. Les humains n'en font pas pousser. Ce dernier argument emporta la décision. Le BGG se leva et demanda.
Quand veux-tu que nous fabriquions ce rêve ?
Maintenant, à l'instant même.
Et quand irons-nous voir la reine ?
Cette nuit, dès que le rêve sera prêt.
Cette nuit ? Et pourquoi ce prestopité si subito ?
Si nous ne pouvons rien faire pour sauver les enfants qui seront dévorés cette nuit, au moins pourrons-nous sauver ceux qui auraient dû l'être demain. Et en plus, je suis affamée. Je n'ai rien mangé depuis 24 heures.
Dans ce cas, il faut se dépêcher,
dit le BGG en se dirigeant vers la caverne. Sophie lui embrassa le bout du pouce. Je savais bien que vous le feriez. Allez, pressons-nous. Il faisait sombre à présent. La nuit avait déjà commencé. Le BGG, portant toujours Sophie au creux de sa main, retourna en hâte dans sa caverne et alluma ses lumières aveuglantes qui semblaient venir de nulle part.
« Reste ici !»
dit-il, après avoir posé Sophie sur la table.
« Et pas de bavassage. J'ai besoin de n'entendre que le silence quand je fabrique un rêve aussi tortueusement complexiqué. »
Il s'éloigna d'elle à grands pas et alla chercher un immense bocal vide de la taille d'une machine à laver. Il le serra contre sa poitrine et s'approcha des étagères sur lesquelles étaient alignés les milliers de bocaux plus petits qui gardaient les rêves prisonniers.
Des rêves avec des géants qui s'empiffrent d'hommes de terre. Non, pas celui-là. Celui-là non plus. Ah, en voilà un. Et là, un autre.
Le BGG se dirigea vivement vers une autre étagère.
Et maintenant, j'ai besoin d'un rêve avec des boîtes à sottes pour les petites filles. Et des boîtes à ballots pour les garçons. Des rêves avec une petite fille. Et des rêves avec moi dedans. Allons, allons, vite, pressons. Au diable, ai-je bien pu les fourrer.
Il continua ainsi, et au bout d'une demi-heure, il avait réussi à trouver tous les rêves dont il avait besoin, et les avait versés dans l'immense bocal qu'il posa ensuite sur la table, tandis que Sophie l'observait sans dire un mot. Elle pouvait voir palpiter doucement au fond de l'énorme récipient une cinquantaine de formes ovales et gélatineuses aux reflets vert pâle. Certaines d'entre elles reposaient les unes sur les autres, mais chaque rêve gardait encore son individualité propre.
Et maintenant, on va les mélanger.
Il alla ensuite chercher dans le buffet où il conservait ses bouteilles de frambouilles un gigantesque batteur à œufs.
Regarde !
Des éclairs verts et bleus jaillissaient à l'intérieur du récipient, tandis que le batteur fouettait vigoureusement les rêves et les transformait peu à peu en une mousse verdâtre. Oh ! Les pauvres !
Ils ne sentent rien ! Les rêves ne sont pas comme les hommes de terre ou les animaux. Ils n'ont pas de cerveau. Ils sont faits de zozymes.
Est-ce que vous avez bien mis toutes les autres choses importantes comme je vous l'avais demandé ?
Quand je soufflerai ce rêve dans la chambre de la reine, elle rêvera chaque petit mini détail que tu m'as demandé d'y mettre. Tu es prête à partir ?
Prête ! Son cœur s'était mis à battre à la pensée de ce qu'ils allaient accomplir. C'était une aventure démente qui allait peut-être les mener tout droit en prison. Le BGG revêtit sa grande cape noire. Lentement, il fit alors pivoter son oreille droite jusqu'à ce qu'elle ressemblât à une grande coquille tournée vers le ciel. Puis, il souleva Sophie et l'y déposa. L'oreille du BGG avait à peu près la taille d'un grand plateau et ressemblait à une oreille humaine avec les mêmes reliefs, les mêmes méandres. C'était un endroit très confortable, en vérité.
On s'en va. On s'en va rencontrer sa majestueuse la reine.
Dès qu'il fut sorti de la caverne, le BGG remit en place la grande pierre ronde et s'élança dans la nuit à un galop d'enfer. Sophie jeta un coup d'œil par-dessus le bord de l'oreille et contempla le paysage désolé du pays des géants qui filait devant elle.
Ils allaient vite, à n'en pas douter. Le BGG bondissait du sol comme s'il avait eu des fusées dans les orteils et chacune de ses enjambées le propulsait à une bonne trentaine de mètres en l'air. Finalement, Sophie et le BGG arrivèrent dans un vaste endroit rempli d'arbres. Une petite route le traversait et on voyait un lac. Tout était désert. Et le BGG, pour la première fois depuis plusieurs heures qu'ils avaient quitté la caverne, fit une halte. Que se passe-t-il ?
Je suis un peu embrouillaminé.
Mais non. Vous vous repérez très bien, au contraire.
Pas du tout. Je suis complètement dessoubolé. Je suis perdu.
Pourquoi ça ?
Parce que, normalement, nous devrions nous trouver au centre de Londres. Et tout à coup, nous voici en plein milieu d'un bois.
Ne dites pas de bêtises. C'est ici, le centre de Londres. Ça s'appelle Hyde Park. Je sais parfaitement où nous sommes.
Tu me fais une farce.
Absolument pas. Je vous jure que non. Nous sommes presque arrivés.
Tu veux dire que nous sommes tout près du palais de la reine ?
C'est juste de l'autre côté de la rue. Maintenant, c'est moi qui vais vous guider.
Quel est le chemin ?
Il faut aller tout droit. Le BGG traversa le parc à petite foulée. Maintenant, arrêtez-vous. Le BGG s'immobilisa. Vous voyez ce grand rond-point là-bas, devant nous, juste à la sortie du parc ?
Je le vois.
C'est Hyde Park Corner. Même à cette heure-ci, une heure avant l'aube, la circulation était dense sur Hyde Park Corner. Au milieu du rond-point, il y a une immense arche avec à son sommet la statue d'un cavalier sur son cheval. Vous la voyez ? Le BGG scruta la place à travers le feuillage des arbres.
Je la vois.
Pensez-vous qu'en prenant votre élan, vous pourriez sauter par-dessus Hyde Park Corner et son cavalier et atterrir sur le trottoir de l'autre côté ?
Facilement.
Vous êtes sûr ? Tout à fait sûr ?
Je t'en fais la promesse.
Quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas atterrir au milieu de Hyde Park Corner.
Ne t'en fais pas. Pour moi, c'est un tout petit bond. Ça ne pose pas le moindre petit mini-problème.
Alors allez-y. Le BGG partit au grand galop en se frayant un chemin parmi les arbres. Et juste au moment où il arriva devant les grilles qui séparaient le parc de la rue, il s'élança dans les airs. Ce fut un bond gigantesque. Il s'envola au-dessus de Hyde Park Corner et atterrit avec la souplesse d'un chat sur le trottoir opposé. Bravo ! Et maintenant, vite ! Il faut sauter par-dessus ce mur ! Face à eux, un mur de briques, muni à son sommet de pointes menaçantes, bordait le trottoir. Le BGG se ramassa sur lui-même et un simple saut à pieds joints lui suffit à franchir le mur.
Nous y sommes. Nous sommes à l'arrière du palais, dans le jardin de la reine.
Le BGG se faufila dans le vaste jardin et cette fois encore, Sophie put admirer avec quelle habileté il se mêlait aux ombres. Et même lorsqu'il marchait sur du gravier, ses pas ne faisaient pas le moindre bruit. Tout à coup, ils se retrouvèrent tout contre la façade arrière de l'immense palais. La tête du BGG atteignait la hauteur des fenêtres du premier étage et Sophie, assise dans son oreille, les avait également juste en face d'elle. Le BGG s'arrêta et approcha de la première fenêtre son autre oreille, celle dans laquelle Sophie n'était pas.
Non.
Qu'est-ce que vous écoutez ?
Une respiration. Rien qu'en entendant un souffle, je peux dire si c'est celui d'un homme ou d'une femme. Il y a un homme là-dedans, et il ronfle légèrement.
Il écouta ainsi à plusieurs autres fenêtres, mais à chaque fois, il hochait la tête et avançait plus loin. Lorsqu'il fut parvenu à la fenêtre qui se trouvait au milieu de la façade, il écouta encore, mais cette fois, il ne bougea plus.
Oh, il y a une dame qui dort là-dedans.
Sophie sentit un petit frisson lui parcourir l'échine. Oui, mais qui est-ce ? Le BGG mit un doigt sur ses lèvres pour l'inciter au silence. Puis, il passa un autre doigt par la fenêtre entrouverte et écarta très légèrement le rideau. Sophie, tout à coup, réalisa qu'elle était en train d'observer un visage qu'elle avait vu toute sa vie sur des timbres, des pièces de monnaie et dans les journaux. Pendant quelques secondes, elle resta sans voix.
C'est elle ?
Oui. Le BGG referma bien les rideaux, puis il prit Sophie dans son oreille, entre le pouce et l'index, et la déposa sur l'appui de la fenêtre, en l'asseyant de telle sorte que ses jambes pendaient à l'intérieur de la chambre tout en restant dissimulées par les rideaux.
Et surtout, ne t'en va pas basculbuter en arrière. Il faut que tu te tiennes bien des deux mains au rebord de la fenêtre.
Sophie suivit ses recommandations. Le BGG retira le bocal de la poche de sa cape et en dévissa le couvercle. Puis, avec mille précautions, il versa le précieux rêve dans le pavillon de sa trompette qu'il glissa ensuite entre les rideaux le plus loin possible à l'intérieur de la chambre en direction de l'endroit où il avait vu le lit. Il prit alors une profonde inspiration, gonfla ses joues et pouf, souffla le rêve. Il ne lui restait plus, après cela, qu'à ôter très lentement la trompette avec des gestes prudents, comme l'on fait d'un thermomètre.
Tu es bien assise là ?
Oui.
Et maintenant, je m'en vais attendre dans le jardin. Quand tu auras besoin de moi, tu n'auras qu'à appeler mon nom et j'arriverai sur le champ.
Vous êtes sûr que vous m'entendrez ?
Tu oublies ça ?
Dit-il en montrant ses grandes oreilles. Bon, eh bien, au revoir. Alors soudain, d'une manière tout à fait imprévisible, le BGG se pencha vers elle et déposa un baiser sur sa joue. Sophie eut envie de pleurer. Mais quand elle se retourna pour le regarder, il était déjà parti. Il s'était simplement fondu dans l'obscurité du jardin. L'aube arriva enfin, et un soleil couleur jaune vif s'éleva derrière les toits des maisons du côté de Victoria Station.